Donc on va recommencer sur le chapitre 33, depuis le début. On va parler de Simchat HaNefesh HaAmitit. Comment on peut arriver à Simchat
HaNefesh.
On va parler de... Peut-être qu'il y a une fenêtre qui est mal fermée. David, tu peux jeter un coup d'œil?
Pardon.
Ah, c'est possible, oui. On va parler de Simchat HaNefesh HaAmitit. La joie de l'âme, la vraie joie. Pas une joie qui est simulée, mais une vraie joie. Alors, Admor HaZaken dit comme ça. On va se travailler aussi encore sur la chose suivante. Pour arriver à une vraie joie de l'âme, ou bifrat, et particulièrement, Keshiro et Ben Nafsho, Beiti Mezumanim, lorsqu'il voit parfois, lorsqu'il sent parfois, chez Tsarich les Achecha. Il sent que son âme a besoin d'être raffinée. Ou les Ahirav et Simchat Levav. Ça veut dire comme ça. Ce qu'on va s'arrêter aujourd'hui, ce matin on s'est arrêté sur la joie. Maintenant, aujourd'hui, on va s'arrêter sur la vraie joie. Quelle est la différence entre la joie tout court et la vraie joie? On peut dire un peu les Chaim. Et on peut simuler être joyeux. Alors qu'en vérité, on est triste au fond de nous. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire qu'une personne, il peut simuler être joyeux, alors qu'au fond de lui, il est triste.
Ouais.
Complètement.
Ça arrive très souvent, ça.
Et qu'il n'y a que lui qui sait qu'en vérité, il est triste.
Il ne peut même pas montrer qu'il est triste.
Alors, la semaine dernière, on a parlé de l'importance de la joie. On a expliqué qu'il faut faire, même s'il faut simuler, il faut simuler. Maintenant, aujourd'hui, on va parler de Simchat HaNefesh HaAmitit. La vraie Simcha de l'âme. Pas une Simcha qui est simulée. Je suis pas en train de dire que si c'est simulé, c'est pas bien, parce que pour moi, c'est mieux simulé que rien du tout. C'est-à-dire que quand tu rentres à la maison, t'es pas obligé de faire la tête, même si t'es pas bien, c'est pas grave. C'est mieux de simuler que de rien faire.
Simuler,
que de
faire la tête. Effort.
C'est déjà un effort. Mais on va pas simuler toute la vie.
C'est pas un mensonge.
Il faut. C'est pas un mensonge. Et on se met en condition, on va dire. C'est déjà un effort.
Si t'es tordu, tu fais.
Mais j'ai envie d'arriver après à une vraie simra. Une vraie simcha de l'âme. Et en particulier, il y a des périodes dans la vie par lesquelles on passe. Ça peut être la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, chacun il aura son âge, ou la soixantaine, son dizaine, etc. Il y a des phases dans la vie dans lesquelles on sent que on a un coup de blues. On sent qu'on a... C'est pas qu'on a un coup d'angoisse, mais on sent qu'on manque de simcha. On sent qu'on manque de simcha intérieure. Alors la question qu'on se pose, c'est comment faire pour arriver à une vraie simcha? Alors, il va nous donner quelques techniques dans le cours d'aujourd'hui, chapitre 33. Quelques techniques pour arriver à la vraie simcha. Il dit à ce moment-là, Azaï, lorsqu'on sent qu'on a besoin, on sent qu'on n'est pas bien, qu'on a besoin de raffiner tout ça. Yamik marshafto veitzayer besichlo vinato inyan yichudo itbarecha amiti. Première chose qu'on peut faire, il faut s'imaginer, on va s'approfondir et on va essayer de s'imaginer dans son intellect, au maximum de notre possibilité, la notion de l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Rappelez-vous ce qu'on avait expliqué dans chapitre 21, chapitre 22. Quand on dit Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, écoute Israël, l'éternel est notre Dieu, l'éternel est un. On n'est pas en train de dire qu'il y a un Dieu et il n'y a pas deux dieux. Parce que ça, tout le monde sait qu'il y a un Dieu et pas deux dieux. Généralement, c'est pas la grande émouna, ça. Est-ce que franchement, quelqu'un autour de la table ici, il y en a un qui pense qu'il y aura deux dieux? C'est un challenge pour vous?
Un frère, non.
Tiens, peut-être qu'il y en a deux. Ah ouais, tiens. Ah, tu sais quoi, je me lève le matin, je dis attention, il n'y en a qu'un seul. Tous les matins. Attention, il n'y en a qu'un seul.
Non, mais la question, c'est pas ça. La vraie question. Si alors, vraiment tu veux aller, si on peut aller à la vraie question, c'est pas ça.
C'est quoi?
S'il y a un Dieu.
Ah, d'accord.
D'où il est, ce Dieu? D'où il sort? C'est ça la vraie question.
Il n'a pas de frère, il n'a pas de sœur.
Alors, dans ce cas-là.
Dans c'est
ce mon père. Non, mais il a raison. Mais dans ce cas-là, dans ce cas-là, non, c'est une bonne question.
Il est sorti seul de...
Dans ce cas-là, on n'aurait pas dû faire le schéma comme ça. On aurait dû dire, écoute Israël, il y a l'Éternel, il y a un Dieu. C'est tout. C'est pas ce qu'on dit dans le schéma Israël. On dit, écoute Israël, l'Éternel. C'est-à-dire, tu pars d'un postulat qu'il y a déjà un Éternel. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Mais qui te dit qu'il y a un Dieu? C'est-à-dire qu'on parle d'un postulat qu'il y a déjà un Dieu. Alors s'il y a déjà un Dieu, alors pourquoi t'as besoin maintenant de dire que ce Dieu est un? Celui qui croit déjà qu'il y a Dieu, t'as besoin de lui rappeler qu'il y a un, qu'il n'y a pas deux. Si déjà il croit qu'il y a un Dieu, il sait qu'il y a un Dieu là, il n'y en a pas deux. On avait expliqué longuement dans le chapitre 21 hein, que c'est pas ça le pshat. Le sens du chemin Israël, c'est pas de dire qu'il y a un Dieu. Quand on parle d'unité d'Akadosh Baruch Hu, c'est de dire qu'en vérité, tout est Dieu. C'est-à-dire, c'est pas seulement de dire qu'il y a un Dieu, il n'y en a pas deux. Non. L'éternel est un, hein, ça veut dire que tout ce qu'il y a dans ce monde, tout ce qu'il y a autour, tout ce que Dieu a créé, c'est Dieu. Et ça, c'est beaucoup plus. Ça veut dire que moi, c'est Dieu, toi, t'es Dieu, toi, t'es Dieu. Et on est tous ensemble, on est Dieu. Ça, c'est déjà plus compliqué à comprendre. Mais ça fait partie de l'émouna d'un juif, parce que sans ça, tu peux pas comprendre ce qui nous arrive. Quand t'as un problème qui t'arrive et que tu sais qu'en vérité, ça vient de Dieu, et que celui que tu crois être ton ennemi, en vérité, c'est Dieu, tout est Dieu.
Oui, mais d'un côté, il dit.
D'accord. Donc, dans ce cas-là, deux secondes. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on se dit, c'est que ça, c'est le chemin Israël. Et maintenant, on comprend le chemin Israël dans un autre sens. Chemin Israël, écoute Israël, l'éternel que tu connais déjà, c'est notre Dieu. Et c'est quoi un Dieu? L'éternel est un. Ça veut dire que tout ce qu'il y a autour de toi, dans le monde, les êtres, les facettes de ma personne, les gens c'est qui sont en face de moi, c'est Dieu. Et c'est pas un Dieu, deux dieux, c'est un seul Dieu, c'est une seule unité. Alors, en vérité, ce qu'on va expliquer maintenant, c'est que ça, c'est la base de la Simcha. Mais il faut qu'on explique comment. Ça veut dire que, avant même de commencer à se travailler sur la Simcha, de dire, je suis joyeux, une vraie joie, il faut d'abord partir de la base que tout est Dieu. Et là, après, on peut commencer à réfléchir. Dans ce cas-là, je vais être joyeux. Parce que si tu ne pars pas de cette base que tout est Dieu, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, tu vas dire, moi, je suis joyeux, mais lui, il me casse les pieds. Donc, ouais, je suis pas joyeux.
On dit Dieu, il est éternel, mais cette table, elle n'est pas éternelle. Alors, comment concilier?
Si, elle est éternelle, cette table.
Non, non.
Si, elle est éternelle.
À moins que, bon...
De toute façon, on finira par se recycle. Tout est, bien sûr que c'est éternel. D'une certaine manière, c'est éternel.
C'est la vodka. Même la bouteille de Coca-Cola.
Tout est éternel.
Par contre, la vodka ne va pas venir la soirée.
La vodka n'est pas éternelle.
même quand on dit que ça s'évapore, ça s'évapore, ça veut dire que ça s'est décomposé. Et c'est parti dans une autre dimension, la dimension du vent, la dimension de l'eau. Mais ça peut pas se détruire, on ne peut pas détruire.
Oui, mais un si homme, on compare.
De la même façon qu'un homme ne peut pas créer, il ne peut pas détruire.
Oui, mais si on compare.
Il peut casser, mais pas détruire.
Que Dieu est éternel et qu'on dit que tout est éternel, y compris la table, etc. La seule différence, c'est que lui, il ne change pas et la table, elle change.
Oui, mais M. Benita, c'est pas la question. Excusez-moi. C'est pas le thème. La question qu'on se pose ici, c'est pas est-ce que la table est indestructible ou pas. Bonsoir. La question qu'on se pose ici, on essaye de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Shema Yisrael? Quand on dit que l'éternel est un, ça veut dire quoi l'éternel est un? On t'explique. L'éternel est un, ça veut pas dire qu'il y a un Dieu. On sait qu'il y a un Dieu. L'éternel est un, ça veut dire que tout ce qu'il y a autour de toi, c'est Dieu. Et ça, c'est fondamental pour avoir une vraie Simcha. Parce que si tu n'as pas ça, tu peux pas avoir de vraie Simcha. Une personne qui pense qu'il y a moi, il y a toi, il y a lui, il y a ce phénomène. Alors bon, des fois, la vie me sourit. Dans ce cas-là, je suis souriant. Des fois, la vie me sourit pas, je suis pas souriant. Si je pars pas de la base que tout ce qui vient, ça vient d'un Kadosh Baruch Hu, c'est pas possible d'avancer.
Mais ça, c'est une perception mystique quand même de la Simcha.
Très mystique. Bien sûr.
Oui, bien sûr. Hein. C'est très très profond. Il faut y arriver. Hein.
Parce qu'encore une fois, il y a des gens qui sont des Simcha parce que la vie leur sourit.
Mais ça, c'est très facile.
Ça, c'est facile. Ils n'ont pas de problème. Ils s'entendent avec tout le monde. Ils n'ont pas de problème au boulot. Ils n'ont pas de problème à la maison. Ils n'ont pas de problème avec leurs enfants. Ils n'ont pas de problème avec leurs femmes. Tout va bien. Va au Hachem. Bon, celui qui est comme ça, bien sûr qu'il est Bessimra.
Oui, tant mieux pour lui.
Il a la parnassa, il a la santé, il a tout ce qu'il veut.
Ça n'a rien à voir avec la Simcha dont vous parlez.
Alors après, tu as celui que ça ne va pas chez lui, mais qui va boire de l'alcool, ou qui va simuler, et qui va faire comme si qu'il est Bessimra. Et que Bémet, il va danser. Parce que il va mettre la musique par exemple, ou bien il va prendre de l'alcool, il va se rentrer dans un état second. Et il va se mettre à être joyeux. C'est déjà bien, mais c'est pas une vraie joie encore.
Non.
Parce qu'au fond de lui, il est triste. On peut danser et pleurer au fond de nous, c'est pas incompatible du tout.
Ça. Puis ça va passer une fois que l'alcool
passe. Exactement.
Passé,
l'alcool ou la musique, etc.
Ça va recommencer.
Ça veut dire que si pour être joyeux j'ai besoin de musique, ça veut dire qu'en vérité je suis pas joyeux.
Ben oui.
La joie va stimuler ma musique, la musique va stimuler ma joie, mais en vérité, je suis pas joyeux. Une vraie joie, c'est un travail intérieur. Ça veut dire que ce que veut nous expliquer ici l'Edmond Razaken, c'est que la vraie joie,
plutôt l'oubli que la joie.
La vraie joie, ça provient de la réflexion.
Oui, mais comment on a évacué tous les problèmes qu'on a pour les remplacer par la joie?
Il faut les relativiser.
Puisque c'est Dieu qui est en face.
Comment relativiser un problème? En essayant de comprendre l'origine du problème.
Un truc qui vous tombe du ciel, comment comprendre l'origine?
Non, au moins réaliser l'origine du problème, réaliser d'où ça vient. Ce n'est pas n'importe qui, c'est Dieu qui envoie ce problème. C'est beaucoup plus facile quand je réfléchis comme ça.
Si on met tout sur le dos de Dieu, alors non, on finit plus.
Tout est Dieu. Il n'y a rien qui ne soit pas Dieu sur Terre. C'est très difficile, c'est facile à le dire, mais c'est très difficile à le vivre.
C'est-à-dire que quand tu dis ça veut dire que toutes les choses qui arrivent,
c'est Dieu.
Bien ou mal,
c'est Dieu.
Et si c'est bien. Et si c'est mal, il faut savoir pourquoi c'est mal.
D'accord.
Comment on peut savoir ce qui a causé le mal? Puisque nous on le voit pas, on n'est pas conscient de ce mal, sinon on l'aurait fait. Et si c'est Akadosh Baruch Hu qui te l'envoie,
qui t'a dit que c'est du mal? Toi tu le vois comme du mal. Ah.
La réponse est dans la page de garde du Bar Malchoute de cette semaine.
Ah, je ne l'ai pas vu encore.
Rien d'extérieur à toi.
Non, c'est-à-dire quelqu'un qui se fait assassiner, il est où le bien?
Tout vient de toi.
Donc, on continue. Donnez-moi.
Il n'y a plus que chercher.
Donc, la personne qui va réfléchir, il va réfléchir à la chose suivante, pour arriver à la Simcha. Il va réfléchir, en bas de la page 90, là. Memalé kol almin, Elohim et Akhodim. Comment Akadosh Baruch Hu, il emplit tous les mondes? Ça veut dire Akadosh Baruch Hu, il descend, il s'adapte à chaque créature. Elohim et Akhodim, les créatures élevées comme les créatures les plus basses possibles. Va filum lo kol haaretz alazo ukvodo itbarech. Même notre terre, qui a tellement de bêtises dans cette terre, chaque parcelle de notre terre est emplie par quoi? Par l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça. Et plus que ça, tout ça devant un Kadosh Baruch Hu, c'est considéré comme si de rien n'était. Écoutez bien ce que je veux dire. Là, on va rentrer un peu dans la théologie. Là. Ceux qui aiment la philosophie vont être servis. Ça veut dire comme ça. Dieu, avant qu'il crée le monde, qui y avait ici?
Personne. Il n'y avait rien.
Non. Même le néant, tu peux pas dire néant, parce que l'espace est une créature. Non, mais l'espace est une créature. Donc même la notion de vide n'existait pas. D'accord?
De vide.
Ouais. Parce que
le vide, c'est déjà
un espace.
Le vide, c'est déjà quelque chose.
Oui. C'est déjà quelque chose.
Ça s'appelle le vide.
Ouais. Donc même ça n'existait pas. C'est pour ça qu'on dit Bereshit bara Elokim ata shamayim veta haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Veharetz hayta tohu vavohu, et la terre était tohu bohu. Ça veut dire d'abord Dieu l'a créé. Et là, il y a Tohu Bohu, mais ça veut dire que Tohu Bohu, c'est déjà une création.
Ça veut dire qu'il est déjà extérieur, la création.
Attendez, justement.
Mais on n'a pas de mots pour dire vraiment...
Ah non, c'est indéfinissable.
C'est indéfinissable.
Maïmonide dit que le cerveau humain n'est pas conçu pour comprendre. Parce que nous, notre cerveau humain est conçu pour comprendre. Il y a l'espace et l'absence d'espace. Mmh. Mais l'absence d'espace, c'est le vide. Or, le vide est déjà une création. Mmh. Donc, on ne peut pas comprendre.
Si le vide est donc antérieur à la création, et si il y a une création, donc ça veut dire que...
Non, le vide n'est pas antérieur à la création, excuse-moi. Ah. Et il y a la création. Quand Dieu il crée le vide, et dans le vide, il va l'emplir.
D'accord, mais avant de commencer à créer quoi que ce soit, donc il y a rien. L'extérieur à ce monde.
Non, ben non, justement, il n'y a rien.
Non, on n'a pas de mots pour le dire.
Il n'y a pas de mots. C'est indéfinissable.
C'est le domaine de l'insof, finalement.
C'est-à-dire, nous, c'est binaire dans notre tête. Cette pièce, où elle existe ou elle n'existe pas. Ou elle est pleine ou elle est vide. Il n'y a pas, elle n'est pas vide et elle n'est pas pleine, c'est pas possible.
Non, mais il y a une notion, il y a cette pièce, il y a cette pièce, et il y a moi à l'extérieur de cette pièce.
Ah non, mais Dieu n'est pas à l'extérieur de quoi que ce soit. C'est ça le problème. Alors on va expliquer.
Il est à l'intérieur.
Alors, la question est la suivante maintenant. Donc on va rentrer un petit peu dans la philosophie. Qu'est-ce qu'on dit? Kadosh Baruch Hu, avant qu'il ait créé le monde, il était seul. Parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait ni le Gan Eden, ni le Olam Haba, ni ce monde-ci, ni rien, ni les ailes, rien du tout. Ni Tohu Bohu, il n'y avait rien du tout. Maintenant, à Kadosh Baruch Hu, il crée le monde. Est-ce qu'il est toujours seul?
Non.
A priori, non. Parce qu'avant qu'il ait créé le monde, il n'y avait que lui, maintenant il y a lui et le monde. Oui. Sauf que, si on dit que le monde c'est lui,
il est toujours seul.
Donc ça veut dire qu'il est toujours seul.
Même aujourd'hui, il est toujours seul.
Et donc ça veut dire, quoi ? Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il est resté exactement le même avant la création du monde, après la création du monde. C'est très compliqué à dire ça. Ça veut dire qu'en vérité, le fait d'avoir créé le monde n'a rien changé en Dieu. Parce qu'on ne peut pas dire que ce que je fais a une incidence sur Dieu. Oui. Dieu, il est au-delà de tout ça.
Parce que c'est lui qui le crée.
Donc c'est compliqué, parce que ça touche à beaucoup de notions, la notion de libre arbitre, etc. C'est une notion très compliquée, ce qu'on est en train de toucher ici. Mais ça, c'est la émouna d'un juif. C'est-à-dire, d'un côté, le juif est persuadé que chaque mitzvah que je fais compte pour Dieu, parce que sinon, le problème le demande. Il dit, fais ci, fais pas ça, donc c'est important pour lui. Et d'un autre côté, je dois avoir la émouna qu'au final, ça change rien pour lui. Au final, à Kadosh Baruch Hu, qui est le monde, qui est pas le monde, qui a dit 1 milliard de personnes ou qui a 0 personne, ça change rien. Il est resté le même. Il est toujours seul. D'accord? Ça veut dire que tout est Dieu. Ça va très très loin. Tout est Dieu. Il n'y a aucun paramètre, aucun phénomène qui échappe à Dieu. Il est exactement le même avant la création du monde, après la création du monde. Et même cet imbécile qui m'a embêté, même celui-là, il n'échappe pas à Dieu. Rien n'échappe à Dieu. Il est le même avant la création du monde, après la création du monde.
Donc en fait, finalement, c'est comme si c'était un arbre qui bouge avec des fleurs qui poussaient.
Non, parce que même dans l'arbre, l'arbre n'est pas le même avec et sans les fleurs. Il y a un arbre avec des fleurs, un arbre sans les fleurs. C'est pas le même. Ils n'ont pas le même poids, ils n'ont pas la même forme, ils n'ont pas le même look, donc ils sont pas les mêmes. À Kadosh Baruch Hu, c'est différent.
Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de matériel qui exprime ce que c'est ?
Non, c'est impossible.
Impossible.
Parce que nous, chaque chose qu'il y a, chaque chose qui va venir s'ajouter à moi, va me changer. Par exemple, je donne un exemple. Tu viens ce soir au cours de Tania, tu vas prendre une nouvelle idée. Cette idée va te changer. Dans le sens que, il y avait Michael Ben David avant qu'il a pris cette idée, et Michael Ben David après qu'il s'est rentré dans sa tête. C'est pas forcément que ça va te changer ta vie, mais tu n'es plus le même. Ça veut dire que ta personne a changé. Chaque chose, tu vas aller au boulot, tu as appris une nouvelle information, tu as changé. Donc, forcément, on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire que je crée quelque chose et que ça ne change rien en moi. C'est pas possible. Ça, il y a quoi que de jouer au rookie comme ça? Bon, David?
Alors, ça, là, ni changer, ni améliorer, ni diminuer.
Rien.
La main. Pourquoi il a fait?
C'est son problème. Non, mais.
Toi, tu peux pas le savoir.
Avant de rentrer, chapitre 36, ça c'est chapitre 36. Mais avant de rentrer, pourquoi il a fait ça? Non, mais attendez, avant de rentrer, pourquoi il a fait ça? Il faut d'abord comprendre un point très important, qu'au final, rien ne change chez Kadosh Baruch Hu. Il est seul. Vegam, on va continuer un petit peu dans les mots. Vegam, ça veut dire que Dieu, aujourd'hui, est aussi seul qu'il l'était avant la création du monde. Vegam et Makom Azé chez Nivrabo Olamazé. Même dans cet endroit, cet espace. Dans lequel a été créé ce monde-ci, bonsoir, d'accord? Hashamayim ve'aretz v'chol tzva'am, ayahu levado memaleh makom hazeh, ve'gam atak kenu levado b'lo shushinu klal. L'espace que nous occupons ici est un espace qui est occupé par qui maintenant? C'est un espace qui est occupé par Dieu. Par qui il est occupé avant? Par Dieu, la même chose. C'est-à-dire que l'espace dans lequel on vit, il est occupé par Dieu aujourd'hui, comme il est occupé avant, exactement de la même façon. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on explique comme ça en chassidut. On explique que, quand on lit un texte comme ça, on se dit, bon, il y a un bug, c'est pas possible. Quoi, on est là, on existe. Qu'est-ce que j'existe pas? C'est-à-dire que j'existe pas, ça sera à me dire. Alors, on dit comme ça. On dit qu'il y a deux façons comment appréhender ce texte. Il y a ce qu'on appelle Da'at Tarton, et il y a ce qu'on appelle Da'at Elyon. Je vais traduire. Il y a la façon de voir d'en haut, il y a la façon de voir d'en bas. J'ai expliqué. La façon de voir d'en bas, c'est de dire, moi je sais que j'existe. Maintenant, tu me dis qu'en fait, j'existe, enfin, tu me dis qu'en fait, j'existe pas et qu'en fait, bon, c'est Dieu, etc. Bon, ça, je me pose des questions sur ce que tu me racontes. Moi, je sais que j'existe. Ça veut dire, le postulat, c'est que j'existe. À toi de me convaincre que c'est Dieu qui est là, que c'est lui qui existe vraiment. Ça, c'est Da'at Tarton. Ça, c'est quand on réfléchit par rapport à en bas. Ça veut dire, je pars du postulat que c'est moi qui existe. Et je dis, je comprends pas comment tu me dis qu'en vérité, il n'y a rien qui a changé pour Dieu. C'est Da'at Tarton. Da'at Elyon, c'est le contraire. C'est le dire, je sais que, qui c'est qui a créé le monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Et je sais que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère tout. La question n'est pas sur Dieu, la question est sur moi. Comment ça se fait que je me ressens? Est-ce que vraiment j'existe? Est-ce que vous comprenez ma question? Ça veut dire comme ça.
Le monde, il a été fait comme
ça. Ça veut dire que, quand une personne, maintenant, il va avoir des questions. Est-ce que la question, c'est, est-ce que moi, j'existe? ou est-ce que la question est-ce que Dieu existe? C'est-à-dire qu'il y a un des deux qui doit être un élément sûr, et l'autre qui doit être en doute. Est-ce que je suis sûr que moi j'existe, mais je ne sais pas est-ce que Dieu existe? Ou est-ce que je suis sûr que Dieu existe, mais je ne sais pas si moi j'existe? Alors, un homme normal, il est sûr que lui il existe, parce qu'il dit moi je peux me toucher, etc. Voilà, on peut toucher, etc. Mais Dieu, on ne sait pas s'il existe. C'est comme ça qu'un homme normal réfléchit. Mais quelqu'un qui réfléchit en date Elion, il réfléchit par en haut, il dit non, il dit que Dieu il existe, c'est sûr. Est-ce que moi j'existe, je ne sais pas. Comme ça, le Rav Nissan Emanov de l'Yeshiva de Bruno à la Vachalov, il avait l'habitude de dire comme ça. Il avait l'habitude de dire, nous on sait que Dieu existe. Et d'où on sait que nous on existe? Peut-être qu'on n'existe pas.
C'est ça, voilà.
Peut-être qu'on n'existe pas, peut-être c'est faux, peut-être c'est une illusion.
Il y a un doute là-dessus.
Qu'est-ce que t'en sais? Qui te dit que tu existes?
Qui tu es?
Moi, et quand tu m'appelles, tu sais que j'existe.
Peut-être on existe, peut-être qu'on n'existe pas.
C'est plus que mystique ce qu'on est en train de dire.
Quand on avait fait le premier parcours du Tanya, parce que là on est au deuxième passage. Alors je vais donner un exemple que j'ai pas trop l'habitude de donner, mais quand on avait fait le premier parcours du Tanya, il y avait certains qui m'avaient dit qu'il y avait un film qui s'appelait, je crois, Matrix, je crois.
Ouais.
D'accord. Moi je connais pas, j'ai pas vu, mais qui dit. Que dans, apparemment, là-bas, dans ce truc-là, il te montrait comment tout pouvait être une illusion.
Non,
parce qu'il m'avait dit, quand on avait fait ce chapitre-là,
le film, ouais.
Il y avait plusieurs, c'était chez l'époque où il était sorti, ou je sais pas quand, et ils m'avaient dit, oui, c'est Matrix.
Le monde n'existe pas.
Ouais.
C'est
exactement. Hein?
Matrix, c'est.
Hein? Alors bon, c'est pas un encouragement pour aller voir un film, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que, qui te dit que tu existes? T'existes pas? Alors seulement quoi? Alors le Rav Nissan Emanov disait comme ça. Le Rav Nissan Emanov disait, nous on sait que Dieu existe. D'où on sait que nous on existe? La seule preuve qu'on a que nous on existe, c'est parce que c'est écrit dans la Torah que Dieu a créé l'homme. Comme la Torah c'est notre référentiel, alors on sait que c'est là, on dit bon, dans ce cas-là c'est vrai, on existe. Tout le reste peut être de l'illusion.
Ouais.
D'où vous savez que vous existez, M. Baruch?
Bah, de ce que vous venez de dire, parce que le reste, effectivement, tient pas debout.
Tout le reste peut être une fiction. Tout peut être l'imaginaire. Ah oui. Vous savez qu'en physique, on explique que vous touchez à la table, là, elle est dure.
Oui.
Vous savez qu'en vérité, elle n'est pas dure, la table. Ouais. Vous savez ou pas?
Oui.
En vérité, c'est de l'énergie, ça.
Oui, c'est les atomes qui sont.
Allez expliquer à quelqu'un que ça, c'est pas, qu'il n'y a pas une table dure devant lui, c'est de l'énergie, de la lumière qui bouge. Il me prend pour un fou. C'est la réalité. Vous comprenez ce que je suis en train de dire?
Si tu dis ça en arabe, quand même.
Va expliquer à quelqu'un que ça, c'est pas de la matière. On va dire pourquoi c'est pas de la matière? Mais bien sûr, je touche, c'est dur. Non, c'est pas de la matière, c'est de l'énergie. L'énergie qui bouge, ça fait de la matière. Ah bon? Même internet. C'est le Zohar qui dit ça. Aujourd'hui, c'est la physique le dit aussi. Ce que je veux montrer par ici, c'est que pour avoir une vraie simra, on va expliquer comment, on doit partir de la base que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et que Dieu n'a pas changé avant la création du monde, après la création du monde, et que l'endroit dans lequel on se trouve, la planète Terre, l'endroit dans lequel on se trouve, cet endroit est empli par Dieu exactement de la même façon maintenant qu'il l'était avant la création du monde. Même chose. Ah, tenez, je comprends pas. Alors la question n'est pas sur Dieu, la question est sur moi.
Ah, si.
Donc ça veut dire qu'on est dans Dieu ou à l'intérieur de
Dieu? Non, on est Dieu.
On est une partie de Dieu.
Non, une partie d'accord de Dieu, on n'est pas Dieu, mais on est à l'intérieur de Dieu.
Non, à l'intérieur c'est un problème, parce que si tu dis à l'intérieur, par exemple, j'ai ici l'oasis. L'oasis, je le rentre à l'intérieur de moi. C'est toujours pas bon, parce qu'il y a moi et il y a l'oasis. Même s'il est rentré en moi. Mais dans moi, si tu prends avec un scanner, il y a moi et il y a l'oasis. Et même si je vais l'ingérer dans mon corps, il y a des particules de mon corps dans lesquelles il y aura l'oasis. Donc c'est pas bon.
Ah ouais, d'accord.
Ça s'appelle une composition.
Ok, c'est bon, c'est pas compréhensible.
Donc pour Akadosh Baruch Hu, c'est pas ça. En tout cas, Akadosh Baruch Hu, c'est un élément. Un et Echad.
Donc on est Echad.
Echad. Comment tu peux expliquer qu'on est resté Echad alors que, Dieu est resté Echad alors que dans le monde il y a tellement de complexité des deux détails?
Alors comment on est Echad et des millions sur la Terre?
C'est la question. Mais la question est la suivante. Est-ce que la question est sur Dieu ou la question est sur moi? Ça veut dire, est-ce que je sais que c'est vrai mais moi je comprends pas? Ou est-ce que je sais, ou ce que je dis non, moi ce que je comprends, ce que je vis, et s'agit de m'expliquer ce qu'il veut dire.
Passe-moi pour.
Oui, c'est d'accord, mais enfin, le problème reste entier. Il en demeure pas moins qu'on ne sait pas pourquoi on me dit que c'est moi Dieu, et d'un autre côté, il y en a des millions.
Oui.
En moi, autour de moi, des milliards même.
Il y a des milliards de Dieu. Alors, c'est bien, il n'y en a qu'un seul.
On me dit une chose et son contraire. On me dit, il est éternel, et d'un autre côté, on me montre, les 7 milliards sont éternels.
C'est pas seulement éternel. Il est tout.
Oui, bon, qu'on dise que Dieu...
Il y a plusieurs traductions en français. Il y a omniprésent, il y a éternel. Mmh.
Mais il n'y a pas de traduction.
Mais là, c'est plus fort. Il est tout.
Non, tu es en train de dire que ça aussi, c'est Dieu.
C'est la matière.
Tout,
ouais. Puisqu'en réalité, c'est de la matière. Donc ça,
c'est autant Dieu que toi.
Oui, d'accord, c'est compris. Ça, c'est de la matière. Ça.
Tout. Il n'y a rien qui n'est pas Dieu.
Et donc, tout ce qui n'est pas caché, c'est Dieu aussi.
C'est Dieu.
Khazir, c'est Dieu.
Tout est Dieu.
Ahmadinejad, c'est Dieu.
Tout est Dieu.
Il a tout créé.
Alors,
le problème, c'est pourquoi il les a créés, eux.
C'est un être humain. Qui c'est qui donne chaque seconde, chaque milliseconde, il y a une énergie qui le fait vivre.
Les autres, c'est Ahmadinejad,
c'est Dieu.
Ouais. Tout est Dieu.
Après,
pourquoi ça marche comme ça, c'est une autre question. Mais déjà, alors attendez. Vous comprenez que c'est révolutionnaire ce qu'on est en train de dire ici. Et ça, c'est une base pour avoir une vraie simra.
Et où on va la trouver, la vraie simra?
Tu vas voir. Parce que quand tu sais que tout vient de Dieu,
là, je suis
tu relativises. Pas du tout, au contraire.
Table,
ah, bah, au contraire, pas du tout. Tu relativises tout. Dès qu'il y a un problème qui t'arrive, tu comprends qu'en vérité, c'est Dieu.
Ouais, d'accord.
Mais... Or, Dieu, il t'aime, donc il veut que ton bien. Ah, et il s'aime aussi, donc il veut que son bien.
Il veut pas forcément.
Alors, il s'aime, il veut que son bien. Donc, ça veut dire que, puisqu'il s'aime, il veut que son bien, et comme moi je suis lui, donc ça veut dire il m'aime aussi. C'est pour ça que c'est ça.
Bah oui, ah, pourquoi il envoie un problème? Donc, peut-être que c'est pas un problème.
Donc, c'est pas un problème, mais comment je peux savoir que c'est pas un problème? Même si tu viens de me le dire que c'est pas un problème, comment je peux avoir la vision de savoir que c'est pas un problème?
D'accord, ça c'est une autre question.
Et là, le problème, il est là.
Ça, c'est le problème. Le problème est là. C'est-à-dire que tout est dans la tête. Une fois que je vais me convaincre que tout est de Dieu, après, automatiquement, j'ai une sérénité. Et la sérénité amène la joie. On ne peut pas être joyeux quand on n'est pas serein.
D'accord.
C'est ça ce qu'on travaille ici. On travaille sur la sérénité. Comment trouver une sérénité profonde. Alors, c'est ce qu'il dit ici.
Alors, ça, c'est mieux que le yoga, alors.
C'est
mieux que le yoga.
Non, ça n'a rien à voir avec le yoga. Le yoga, c'est pour sortir de la réalité. Là, on ne sort pas de la réalité.
C'est pour le corps, le yoga.
Bon, il y a plusieurs types de yoga. Moi, par exemple, le yoga, la majorité du yoga, c'est Avodhazara.
Ah bon?
Oui, bien sûr. Une grande question sur le yoga. C'est les techniques d'Avodhazara, ça. Après, il y a du yoga que pour le corps, au niveau de la réflexion.
Yoga, c'est un...
Hein? Ah oui, c'est pas simple. Il faut demander à un rave. Il y a plusieurs types. La majorité des types de yoga sont interdits. T'es Avodhazara?
Tu fais un mouvement,
c'est rien, ça c'est charlatan, ça.
Ah, c'est pour ton corps, c'est pour le bien de ton corps. Hein.
Je te parle des vrais, moi. Je parle pas des... C'est des postures qui invoquent une...
Ah, ouais,
c'est
bon.
Hein?
C'est bon savoir.
Ah oui, oui. C'est pas simple.
Faut pas te faire un dessin, ça.
Non, ouais, pas de dessin à faire, c'est très simple.
C'est bon savoir.
Bon. Alors, donc, ce qu'on essaie d'expliquer maintenant, c'est comment tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Mipné, on va continuer un petit peu. Mipné, parce que je suis en bas de la page. 91, Mipné, parce que... Je colle un Ivraim Betelim Etzlo, car toutes les créatures sont annulées devant Dieu. Bimtiut Mamash sont complètement annulées, comme si qu'elles n'existaient pas. Ke Bitul Otiot Adiburva Machashava Bimkoran Veshorshan. À l'image des lettres, de la parole et de la pensée, telles qu'elles étaient annulées à l'origine et à la source. Faut que j'explique ce qu'il y a à dire ici. On prend le temps qu'il faut. Imaginez que vous allez parler. Cette parole vient d'où? Donc pour parler, vous allez formuler une phrase. Une phrase est composée de mots. Les mots sont composés de lettres. D'où viennent ces mots?
De l'intérieur de moi.
D'accord. Attends, doucement. D'où viennent ces mots? Doucement. Avec quoi d'abord? Progressivement.
Allez,
la bouche. Avec quoi je prononce ces mots?
Avec
ma bouche. D'accord. Mais ça, c'est l'aspect technique. Que je prononce avec ma bouche. Ouais. Mais en vérité, d'où viennent les mots? Ils viennent de ma tête. D'accord. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il y a dans ma tête? Il y a la pensée. Donc la pensée est l'origine de la parole.
Ouais, l'expression.
Très bien. Maintenant, les mots que je vais dire, imaginez-les avant que je les sorte de ma bouche et avant même que j'y pense. Où ils se trouvent, ces mots?
mon dictionnaire.
Ils n'existent pas.
Hein ?
Ils n'existent pas.
C'est un cas d'âge marron.
Écoutez bien ce que je suis en train de dire.
À mon niveau, ils n'existent pas.
D'accord. Avant que je commence à y penser, avant que je mette des mots à la chose, si où
on,
ils sont ?
Si on prend le chapitre...
Alors, je vais expliquer. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple concret. Non. Imaginez, par exemple, que j'ai envie de dire que j'aime l'Oasis. Parce que je sens que j'aime l'Oasis. Mais je n'ai pas encore réfléchi aux mots pour le dire. C'est un sentiment que j'ai. Après, je dis, tiens, j'ai envie de le dire. Donc, j'ai des mots qui viennent dans ma tête. J'aime l'Oasis. Ces mots vont descendre dans ma bouche et je vais dire j'aime l'Oasis. Donc, là, on a trois étapes. On a l'étape de la parole, c'est quand j'ai exprimé. L'étape de la pensée, c'est quand j'ai traduit une idée dans des mots. D'accord ? Donc, j'ai mis des mots. Et on a une étape qui est encore plus élevée. Non, c'est quand dans mon cœur je ressentais la chose.
L'émotion.
Mais j'ai pas de mots.
Il n'y a pas d'émotion dans l'Oasis.
Ça veut dire quand on aime, on n'aime pas en anglais et on s'énerve pas, d'accord, en français. C'est être énervé et aimer, c'est quelque chose qui n'a pas de mots. C'est au-delà des mots.
C'est un sentiment.
C'est un sentiment. Ouais. C'est un sentiment que tu peux exprimer
par une pensée
et par une parole.
Tu traduis par des mots.
D'accord ? Mais en vérité, les mots ne sont qu'une manière d'exprimer et de dévoiler quelque chose qui est en nous. Bon, je vais aller plus loin que ça maintenant. Maintenant, quand tu réfléchis, est-ce qu'il y a une différence si tu réfléchis en français, en anglais, en yiddish ou en hébreu ? Ça change rien.
Non.
Ce qui compte, c'est quoi ? C'est qu'il y a une compréhension. Et est-ce que la compréhension est en français ? Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous comprenez quelque chose, vous comprenez en français ? Pas du tout. La compréhension n'est pas en français. La compréhension, c'est la compréhension. C'est au-delà au-delà des mots, au-delà des lettres.
Pas de langue.
Seulement quoi ? Seulement, comme des fois on a besoin de conceptualiser, donc on va donner des mots pour essayer de voir plus clair. Ok ? Maintenant, ce qui est expliqué en Chassidout, là, je vais pousser encore plus loin, dit concrètement, on est obligé toujours de passer par des lettres. Pourquoi ? Parce qu'une lettre en hébreu, ça veut dire quoi ? Une lettre, c'est un dévoilement. Hot en hébreu, ça veut dire un dévoilement. Or, l'énergie qui était dans mon âme, le sentiment qui était dans mon âme, si je veux l'exprimer, le ressentir, forcément, il faut que ça passe par des lettres. Seulement, écoutez bien, on explique que dans la pensée, il y a deux types de lettres. Il y a les lettres de la pensée, qui sont des lettres qui correspondent à la parole. Ça veut dire que, c'est, si vous voulez, c'est les mêmes lettres que la parole, sauf qu'au lieu que je les sors de ma bouche, je les exprime dans ma pensée. Mais il y a des lettres qui sont encore plus élevées que ça, c'est ce qu'on appelle les lettres de la pensée. Ça veut dire que c'est la pensée à l'état brut qui a quelque chose qui n'est pas une langue, mais c'est des lettres. Ça, c'est ce qu'il y a de plus profond en moi. C'est-à-dire que ça peut nous arriver, par exemple, tu penses à quelque chose sans penser en français. Et après, tu commences à donner des mots. Tu dis, ah, on va donner ce mot et ce mot et ce mot. Et là, tu commences à descendre et après, tu arrives au mot dans ta bouche. Vous me suivez ? Donc là, on est passé par quatre étapes. Je repasse une couche parce que je sais que c'est pas simple. Ça veut dire qu'en vérité... Hein ?
Non, c'est pas... Je pense pas dans une autre langue que le français ou l'hébreu, mais...
Ça veut dire comme ça. Imaginons par exemple que tu veux exprimer que tu aimes quelqu'un. Ça passe par quatre étapes. Première étape, tu l'aimes.
Un enfant, il pense pas par des lettres ou par des mots ?
Il n'a pas de mots, justement.
Mais non, il n'a pas de mots, l'enfant.
Ça veut dire que l'enfant, il a que la première étape.
Des sentiments, des...
L'enfant, j'arrive, c'est une très bonne question, j'arrive tout de suite. Imagine-toi par exemple que je vais exprimer à quelqu'un que je l'aime. Ça va passer par quatre étapes.
Non, le contraire, c'est l'enfant, comment il va exprimer.
Attends, j'y arrive à l'enfant, une seconde. Mmh. Imagine-toi par exemple que je vais exprimer à quelqu'un que j'aime. Que j'aime quelqu'un, ça passe par quatre étapes. Première étape, je l'aime. Ça, c'est ce que j'ai au fond de moi. Deuxième étape, ça monte dans ma tête et je comprends que je l'aime. Maintenant, j'ai pas encore donné des mots de dire tu comprends, je l'aime, et ça s'écrit L'A-I-M-E. Il n'y a pas de mots encore. Je comprends, c'est une compréhension qui n'a pas de mots encore. C'est étape numéro 2. Étape numéro 3, j'essaye dans ma tête de donner des mots à mon sentiment. C'est déjà quelque chose de plus compliqué. C'est-à-dire que je vais essayer de donner des mots techniques en français, dans une langue que je comprends. Pas une idée abstraite. Je vais essayer de donner des mots. C'est étape numéro 3. Étape numéro 4, cette idée que j'ai eue dans ma pensée, je la descends dans la parole. Comme tu as dit justement, Marcel, un enfant est limité. Un enfant, il a des sentiments comme un adulte. Il ressent. Et un enfant, il peut même penser comme un adulte. Ça veut dire que du cœur, ça monte dans sa tête. Mais l'enfant, il est bridé à ce stade-là. C'est qu'il n'arrive pas à trouver des mots.
Il ne connaît pas.
Il ne connaît pas, donc il n'arrive pas à les trouver. Ça veut dire que il a une pensée, ça veut dire qu'il a un sentiment.
Il a même pas le nom.
Il a une pensée, mais il n'arrive pas à exprimer cette pensée ni pour lui-même,
si.
Ni pour les autres.
Si. Là, il n'arrive pas. Par des gestes.
Non, mais ça veut dire qu'il arrive, il arrive pas à exprimer et comprendre cette pensée.
Par des paroles, oui, mais
il l'exprime
autrement.
Non,
il arrive. Quand un enfant, il t'aime.
Il n'arrive pas à exprimer. Ça veut dire que lui-même, il trouve pas des mots. Ni pour lui, ni pour les autres.
Oui, les mots, il
ça reste une idée.
Oui, il les connaît pas.
Il les connaît pas.
Il les connaît pas. Ni pour lui, ni pour les autres. Ça veut dire quand, par exemple, un adulte, il a mal. Comment ça se passe?
Si ce n'est que
des fois, il y a toujours les quatre étapes.
Deux enfants,
quand par exemple j'ai mal. J'ai mal par exemple au ventre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a les quatre étapes. Première étape, j'ai mal. Deuxième étape, je comprends que j'ai mal. Troisième étape, il y a les mots dans mon cerveau qui me disent j'ai mal. J'ai mal. Dans ma tête, j'ai mal. Quatrième étape, je le dis, j'ai mal. Comprenez, l'enfant, il n'a pas les dernières étapes. Il sait qu'il a mal, il comprend qu'il a mal, mais il ne sait pas le dire. Donc, il exprime ça comme il peut, en bougeant, etc. Il exprime comme il peut. Il sait pas. Ce que je veux montrer par ici, c'est quoi? Ce que je veux montrer, pourquoi je parle de tout ça maintenant? Pour montrer que, ça c'est un exemple pour nous montrer comment, qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors maintenant, vous allez voir, je vais vous amener. Qu'est-ce qui se passe avec ces lettres? Donc, imaginez les lettres. Les lettres que j'ai exprimées. J'ai dit à quelqu'un, par exemple, je t'aime. Étape numéro 4. Avant l'étape numéro 4, ces mots je t'aime, ils étaient où? L'étape numéro 4, c'est quand je les sors de ma parole, avec ma bouche.
Mon cerveau.
D'accord? Avant qu'ils étaient là. Étape numéro 3, ils étaient où ces mots, je t'aime?
Dans ma pensée.
Ils étaient dans ma tête. Avant l'étape numéro 3, ils étaient où ces mots?
Dans le cœur.
Non.
C'était
une compréhension dans la tête sans mots. Oui, mais puisque les mots viennent de là-bas, ça veut dire qu'ils sont là-bas.
Ça m'a référencé quelque part.
Vous me suivez? Je continue. Maintenant, l'origine de cette pensée, je t'aime, elle vient d'où? Du cœur. Donc, puisque c'est le cœur qui a poussé ces mots, je t'aime, c'est-à-dire que dans le cœur, il y a des mots. Pourtant, dans le cœur, on réfléchit, on ressent pas avec des mots. Mais pourtant, dans le cœur, il y a des mots, puisque le cœur est l'origine des mots qu'il y aura après. Donc, ça veut dire qu'il y a des mots, mais c'est des mots qui sont cachés. C'est des mots qui sont cachés dans le sens qui sont annulés. Qui sont inexistants. On peut pas dire qu'ils n'existent pas d'un côté, parce que c'est eux qui vont produire par la suite ces mots. Parce que, tu comprends que si, 1, 2, 3, 4, si là j'ai des mots, ça veut dire que les mots ils étaient là déjà. Vous comprenez?
Non.
D'accord. Vous avez un exemple.
Ah, mais le cœur il crée des sentiments.
Ça, c'est très simple, très simple.
Enfin, j'arrive pas
les mots, c'est après.
Tu vas...
La deuxième étape.
Imagine-toi que j'ai un néon qui est clair.
Pour remonter jusqu'à
c'est très simple, très simple.
Et pas l'inverse.
Imagine-toi que j'ai un néon qui est clair. Tu vois dans ce néon? Ce néon il me donne la lumière. D'où vient cette lumière?
Mais pourquoi tu parles de là?
Attends, écoutez ma question. D'où vient cette lumière?
De l'agitation des...
D'accord. Montez. D'où vient? Non, d'abord là. D'où vient cette lumière? Elle vient d'un néon. D'accord? Maintenant, d'où vient l'énergie de ce néon? L'électricité. D'où vient cette électricité? Elle vient du compteur. D'où vient le compteur? Etc, etc. Ça veut dire qu'en vérité, à la centrale nucléaire, il y a de la lumière. Tu dis, non, il n'y a pas de lumière à la centrale nucléaire. Mais si, parce que si elle peut produire la lumière à la fin, c'est qu'au début aussi, il y avait de la lumière. Sauf que, quand on était à la centrale nucléaire, à la centrale donc électrique, là-bas, la lumière était cachée.
Elle n'est pas dévoilée.
Mais là, quand elle arrive ici, elle s'est dévoilée. On a dévoilé une énergie qui était cachée. C'est la même chose. Quand j'ai un sentiment que j'ai pas exprimé, et que je vais l'exprimer avec des mots, en vérité, ces mots ont toujours été là. Seulement, ils n'étaient pas dévoilés. Et la preuve, c'est que c'est impossible de ressentir avec des mots. Mais pourtant, les mots viennent du cœur. Les mots pour exprimer à quelqu'un un sentiment, ces mots viennent du cœur. Alors pourquoi il parle de tout ça ici? Pour dire, tu vois bien qu'il y a un exemple dans notre cœur, dans notre corps, on voit clairement comment je peux avoir quelque chose qui est en moi, et pourtant il est tellement annulé au point qu'il n'existe pas. On croit qu'il n'existe pas alors qu'il est là. Comme les mots qu'il y a dans le cœur. Je sais qu'il y a des mots dans le cœur, mais ils sont tellement annulés que c'est comme si qu'ils n'existent pas. C'est seulement après, plusieurs étapes après, que ces mots vont commencer à se développer. Ça, c'est un exemple qui veut expliquer pour dire que de la même façon par rapport à Kadosh Baruch Hu. C'est un exemple. Quand on dit que d'un côté, on est annulé à Kadosh Baruch Hu, et d'un côté, d'un autre côté, on existe. Comment c'est possible? Comment on peut en même temps exister et en même temps être annulé à Kadosh Baruch Hu? Ben, l'exemple, c'est comme les mots qui se trouvaient dans le cœur. Que d'un côté, ils sont là, parce qu'ils viennent de là. D'un autre côté, ils sont annulés. Ça veut dire qu'on peut se trouver quelque part en étant annulé à la chose. Je vais donner un autre exemple. Ça, c'est un exemple qui est amené. Ça, c'est des exemples très profonds de Chassidut que je vous donne. C'est des choses, on peut pas les comprendre du premier coup, mais on va essayer quand même de comprendre.
Mais qu'est-ce que ça va m'apporter dans la vie de tous les jours, cette affaire?
Très simple. Ce que ça m'apporte dans la vie de tous les jours, monsieur Benita, c'est de comprendre, avant d'arriver à la Simcha, c'est de comprendre comment je me situe par rapport à Dieu. Comment d'un côté je n'existe pas, d'un autre côté j'existe. Comment c'est possible? Et ça, ça va nous résoudre ce problème. Là, je vous donne la formule pour résoudre le problème. La formule du monde, monsieur Benita. Comment d'un côté j'existe pas, d'un autre côté j'existe? Je vais vous donner un autre exemple plus poussé que donne le Zohar. Zohar, il dit comme ça. Il dit, vous voyez le soleil? Bon. En pleine journée, on est éclairé par quoi?
Soleil.
Par les rayons du soleil. Ok? Donc ces rayons du soleil, ils viennent d'où?
Soleil.
Du soleil. Très bien. Donc ils ont voyagé à la vitesse de la lumière, d'accord? 300 000 km à la seconde, etc. Eh bien, ils ont voyagé à cette vie pour arriver jusqu'à chez nous. Pas de problème. Maintenant, si on remontait jusqu'à la source, si on allait jusqu'au soleil, est-ce que dans la boule du soleil, il y a des rayons?
Non.
Comment c'est possible? Si les rayons viennent de là-bas, comment c'est possible que dans la boule du soleil, il n'y a pas de rayons?
C'est la boule qui crée le rayon.
Mais c'est le... Oui, c'est
le... Oui, mais si la boule... C'est-à-dire qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire si déjà la boule, elle peut produire des rayons à des milliards de kilomètres d'elle...
Elle ne produit pas, elle crée le rayon.
Justement. Si déjà elle peut produire une lumière et des rayons à des milliards de kilomètres d'elle, à plus forte raison qu'à l'endroit même, il y a des rayons. Ça m'en la réponse, c'est quoi? C'est que dans le cœur du soleil, c'est tellement puissant que le rayon est annulé.
On ne le voit pas.
Il est annulé, c'est-à-dire qu'il est inexistant. Pourtant, il est existant. La preuve, c'est que des milliards de kilomètres plus tard, on verra que ce rayon vient de là-bas. Donc ça veut dire qu'il existe. Si tu dis qu'il n'existait pas, alors comment il peut arriver des milliards de kilomètres plus tard? Ça veut dire qu'il a existé là-bas. Seulement quoi? La lumière était tellement puissante à la source que, du coup, le rayon, tu ne le vois pas. Mais ce rayon existait. C'est-à-dire que là, on a, ça, c'est un exemple que le Zohar donne, pour, c'est une formule, pour expliquer comment on peut en même temps exister sans exister. Et c'est exactement comme ça que nous, on est. On existe sans exister. On est annulé à Dieu en existant en même temps. Comment c'est possible? Exactement comme les rayons du soleil. Que dans le soleil, que d'un côté, le rayon du soleil dans le soleil, ben, tu le vois pas, c'est impossible de le voir. C'est tellement puissant que le rayon n'existe pas. Mais d'un autre côté, il existe. La preuve, c'est qu'on le voit des millions de kilomètres plus tard. C'est un exemple. Ça, c'est un exemple pour expliquer comment nous aussi, par rapport à Kadosh Baruch Hu, d'un côté on n'existe pas, d'un autre côté on existe. C'est un exemple. C'est juste un exemple. Vous comprenez, M. Benita? Ça, c'est notre but. Alors, donc notre but, c'est de comprendre comment physiquement, ça s'explique ça aussi, hein. Comment physiquement parlant, on peut en même temps exister sans exister.
D'accord, mais enfin, qu'est-ce que ça m'apporte?
Ce que ça m'apporte, M. Benita.
J'existe et j'existe pas.
Très simple. Ce que ça m'apporte, M. Benita, c'est que quand, par exemple, j'ai un problème, je veux me poser la question, est-ce que ce problème existe ou n'existe pas?
Alors, combien même?
Écoutez ma question. Est-ce que ce problème existe ou n'existe pas? Est-ce que j'existe ou je n'existe pas? Qu'est-ce qu'on te répond à ça? On te dit, tu existes sans exister. Comment c'est possible? Là, on a l'exemple qu'on vient de donner. Comment on peut en même temps exister sans exister? Exister dans le sens que il y a ce qu'il faut pour que j'existe, mais ne pas exister dans le sens qu'en vérité, je suis battel, je suis annulé à Kadosh Baruch Hu. Ok? On va développer un peu plus loin.
Oui, alors, dans la condition qui dit j'existe pas, et dans le même temps, il me demande de faire un certain nombre de travaux, de règles.
Encore une fois.
Comment je peux faire ça sans, alors que j'existe pas?
Monsieur Benita, encore une fois. C'est la formule qu'on essaie d'expliquer. C'est exactement la formule qu'on essaie d'expliquer. La formule, à savoir, le juste milieu entre comment d'un côté j'existe, d'un autre côté j'existe pas. C'est exactement ce qu'on essaie de comprendre. Ok?
On est en plein dans la question.
Vous êtes au cœur de la question.
Dans le soleil.
Ça
n'existe pas encore pour le moment, t'es pas là.
Vous êtes lumineux.
Monsieur Benita, je vais vous donner un exemple. Imaginez par exemple que vous êtes bloqué sur un problème. Vous êtes devant un problème, une équation, un problème, d'accord, dans votre vie. Un problème dans une affaire ou dans un problème mathématique, vous êtes devant un problème. Et vous ne trouvez pas la solution. Et vous cassez la tête, et après plusieurs jours de travail, vous trouvez la solution. D'où elle est venue la solution?
De la réflexion.
D'accord, mais de qui elle est venue?
de celui qui a réfléchi, de celui
auquel... Non, je parle de vous, là. C'est vous qui avez trouvé la solution.
De celui qui avait le problème à résoudre et à force de réfléchir à son problème, il a trouvé la solution.
Donc ça veut dire que la solution était en lui.
Elle était en lui, mais il fallait la creuser, il fallait la trouver.
Mais elle était déjà en lui.
Elle était en lui. Mais le tout, c'est de la développer pour la trouver.
Attendez, l'idée était déjà en lui, parce que si elle vient de moi, c'est qu'elle était en moi.
Oui, mais alors, si je pars de ce postulat-là, ça veut dire que tous les problèmes qui se poseront à moi, il suffit pour moi que je réfléchisse pour que je trouve leur solution. Non, mais... Alors qu'elle est en moi.
Je vous parle d'un cas, d'un exemple. Mais écoutez-moi. Je vous parle d'un exemple où vous aviez un problème. Et que c'est vous qui avez trouvé la solution. Après un mois de travail. Si vous avez trouvé la solution, ça veut dire que la solution était en vous. Et pourtant, un mois plus tôt, quand on vous demande...
Qu'il a étudié pour...
Sans même passer par les livres. Des fois, enfin, tu te casses... Sans paramètres externes. Il s'est cassé la tête avec son cerveau en essayant de tourner le problème dans tous les sens. Et il a fini par trouver la solution. En vérité, la solution, il l'avait depuis le début. Mais elle était cachée en lui. Parce que si elle est sortie de moi, c'est qu'elle a toujours été en moi.
Mais il l'avait pas, il l'a trouvé.
Bah, écoute bien ce que je viens de dire. C'est pas qu'elle existait, c'est que la solution, elle était déjà en moi. L'idée était déjà en moi.
Elle était cachée.
Imagine-toi par exemple quelqu'un qui a une idée révolutionnaire, qui va changer le monde. Il se réveille un matin, pac, il a une idée. Maintenant, l'idée, il l'a eue quand il avait 60 ans. Mais cette idée, en vérité, il l'a en lui depuis sa naissance. Seulement, elle s'est pas développée. Parce que si elle vient de moi, c'est qu'elle était en moi. Il y a d'ailleurs des gens comme ça, beaucoup, qui ont des idées, qui ne vont jamais développer. Ça veut dire qu'on peut avoir quelque chose qui est en moi et que je ne développe pas. Donc du coup, pour moi, il est inexistant, alors que le futur prouvera qu'il était existant. On a beaucoup de parties de notre existence, de notre être, des aspects, des facettes en nous qu'on ne connaît pas, on croit qu'ils n'existent pas, alors que la vie nous prouve qu'ils existent en nous. Et qui ont toujours existé. Seulement... Il n'y a pas eu l'occasion de se développer. C'est un exemple que je vais vous donner ici pour montrer
le contraire
que
aurait été...
c'est pas parce qu'une chose ne s'est pas exprimée qu'elle n'est pas là. La même façon, ça c'est une formule que donne le Zohar pour résoudre l'équation. Comment c'est possible d'un côté de dire qu'on n'existe pas, d'un autre côté on existe. Ça c'est la réponse. C'est qu'on peut être annulé à Kadosh Baruch Hu dans le sens que on s'exprime pas, mais c'est pas parce qu'une chose ne s'exprime pas qu'elle n'est pas là. Elle est là.
Ça veut dire si ma chère ne s'est pas dévoilée, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas arrivé, ça veut dire qu'il est là, mais qu'il n'est pas dévoilé.
Évidemment, oui.
Ça veut dire qu'il fait partie des 7 milliards, mais qu'on ne l'a pas vu encore.
Mais c'est pas dévoilé. Très simple. Si tu dis que ma chère vient des humains, enfin, c'est-à-dire qu'il vient d'ici, et donc il va venir dans ta chambre tout de suite, c'est-à-dire qu'en réalité, il a toujours été là. Parce que s'il vient, c'est qu'il était là déjà.
Oui. Non, c'est qu'il était programmé, je ne sais pas moi.
J'ai compris, mais. C'est-à-dire qu'il était déjà là. Seulement, il ne s'était pas dévoilé. Tu comprends ce que je veux dire? Tout c'est comme ça. Tu as une idée que tu vas avoir aujourd'hui, cette idée tu l'as depuis ta naissance.
Donc c'est la prédestination. Alors tout ce qui m'arrive alors?
C'est une sorte de prédestinée, bien sûr. Hein. Ouais. C'est le mektoub ça. Hein.
Oui, voilà. Oui, c'est comme les arabes, oui. L'histoire.
Nous, le bon mektoub on a.
Mais ce qui aurait été intéressant.
Non, j'ai pas dit ça. C'est pas ce que j'ai dit.
C'était prédestiné.
Non. Après, c'est moi qui décide ce que je développe, ce que je développe pas. J'ai plusieurs aspects en moi, plusieurs facettes. C'est moi qui décide quels aspects je ressors. Chacun de nous, on a des bonnes facettes, des mauvaises facettes. C'est comme ça. Et c'est moi qui décide qu'est-ce que j'exprime.
Est-ce que j'ai conscience de toutes mes facettes?
Est-ce que
j'ai conscience de toutes mes facettes?
Clairement non.
Si je peux les développer, comment je peux en...
Clairement non, parce que par exemple, il y a beaucoup de situations dans la vie auxquelles Baruch HaShem, on n'est jamais passé. Et que tant qu'on n'y est pas passé, on n'a aucune idée comment on réagira devant.
C'est sûr.
C'est clair. C'est-à-dire que... Et pourtant, c'est en nous. La preuve, c'est que si je réagis comme ça, c'est que c'est une nature que j'ai en moi qui m'accompagne depuis le début. Mais je ne savais pas. Comment je veux dire? Ça, c'est un exemple pour montrer que on peut avoir quelque chose en nous qu'on croit qu'il n'existe pas, alors qu'en vérité, le futur prouvera qu'il a toujours existé, qu'il a toujours été là. Ben, c'est exactement la même chose quand on parle par rapport à Kadosh Baruch Hu. Pour expliquer comment c'est possible de dire que d'un côté, à Kadosh Baruch Hu, comment c'est possible que Dieu il est le même avant la création du monde, après la création du monde? Comment c'est possible? C'est pas possible. Ah, quand il a créé le monde, il a rajouté des choses. C'est que tout ce que Akadash Baro a rajouté, il les a créés, mais ils sont annulés à lui. Ils sont annulés à lui comme la pensée et Batel et se trouve présente dans mon cœur alors qu'elle s'est pas exprimée. Ça veut dire qu'elle est là, on sait qu'elle va s'exprimer, mais elle est encore à l'état où elle est embryonnaire, où elle est cachée. Donc elle ne s'est pas exprimée. Donc elle est là sans être là. Ben c'est un peu la même chose par rapport à nous. On est là sans être là. On existe sans exister, les deux en même temps. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il est toujours aussi seul qu'avant. Parce que de la même façon qu'avant, il n'y a rien qui pouvait lui tenir tête, maintenant aussi rien ne peut lui tenir tête. On est tous battels, on est tous annulés à Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la réalité. On est tous annulés à Akadosh Baruch Hu.
Le cher Rabbi, il lui tient tête.
Oui, mais en vérité, il lui tient pas tête. Il ne peut pas lui tenir tête. C'est une illusion, tout ça.
Bien sûr.
Ok. Mmh. Moi, je veux pas trop vous prendre la tête avec ces sujets de théologie, philosophie.
Pourquoi je prie à Kadosh Baruch Hu? Pourquoi je prie à Kadosh Baruch Hu pour lui demander évite-moi si donne-moi ça.
Ça c'est une facette.
Pourquoi je prie à Kadosh, puisque tout est en moi et que finalement à Kadosh Baruch Hu la vie c'est une projection de lui. Donc, puisque la projection, c'est exactement la même chose que la source, seulement elle est ici, mais la source, elle est là, et la projection, elle est sur le mur, donc c'est pareil. Donc, chose, hein. Blanc. Pourquoi je le prie? Puisque, au final, ce qui est ici, c'est la même chose que ce qui est là-bas. Seulement, il est ici, là-bas, il est caché, là-bas, il est dévoilé.
Alors, c'est là qu'on a l'exemple du soleil.
Il n'est pas plus haut.
Là que je reprends l'exemple du soleil. Regardez. On va reprendre l'exemple parce que c'est l'exemple image qui va expliquer juste après. Si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave. On va essayer de passer une couche, une autre couche, etc. Essayez de comprendre ce que vous pouvez. Mais je pense que c'est très important d'étudier ces sujets. Parce que vous savez que c'est une mitzvah de la Torah d'essayer de comprendre Dieu. C'est-à-dire ce qu'on fait là maintenant, à cet instant précis, on est en train d'accomplir une mitzvah positive de la Torah.
Connais-le.
De connaître Dieu.
Dans toutes tes chemins, connais-le.
Non, c'est important, c'est pas stable.
Ça veut dire qu'il nous a donné les outils pour comprendre. Alors.
Bien sûr, après au maximum de compréhension. Je vais reprendre l'exemple du soleil. D'accord. Non, mais ça vient.
À notre niveau.
À notre niveau.
Ouais, c'est sûr.
À notre niveau.
À quel niveau alors?
Je vais reprendre l'exemple du soleil. Parce que c'est un exemple qui est intéressant. Regardez, le soleil. Le rayon du soleil qui éclaire ici-bas, ce même rayon, quand il était en haut, est-ce qu'il éclairait?
Non.
Non. Il n'existait pas.
Non, il était la source, c'était le noyau.
Il est parti de la source pour arriver ici.
Non, ce rayon, tu peux prendre avec un, même avec un néon par exemple. Là, j'ai le rayon du néon. Quand je vais dans le cœur du néon, il n'y a pas de rayon. Pourtant, c'est lui qui produit les rayons.
Prends un film projeté sur une caméra. Hein. L'origine du faisceau, il est noir.
Il est noir. Comment c'est possible? Pourtant, tout vient de là-bas. Donc, si tout vient de là-bas, c'est qu'en vérité, là-bas, il est présent, mais il est caché. Alors, quelle est la différence seulement dans ce cas-là? Comment ça se fait que là-bas, il est caché et ici, il est dévoilé? C'est très simple.
Est-ce qu'il est caché ou est-ce qu'on nous le cache?
Non. Il est caché, par définition.
Non, mais...
Pourquoi il est caché? Pourquoi il est caché? Non, très simple, très simple. Parce que comme il est à sa source, Marcel, pour reprendre ta question, comme il est à sa source, donc il est annulé par rapport à sa source. Quelle est la différence entre là-bas et ici? C'est que quand il est à sa source, il n'a pas d'existence puisqu'il est annulé à sa source. Mais quand il prend la distance, il prend une autonomie. Et quand il prend l'autonomie, il dit « Attends, j'ai quelque chose, moi. » Et là, il commence à éclairer. Et plus il prend la distance, plus il s'éloigne de sa source, plus il a une autonomie. Plus il se sent indépendant.
C'est pour ça que nous,
attendez, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Sauf que, écoutez ce que Dieu a fait par rapport à nous. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. À Kadosh Baruch Hu, il nous donne l'impression, l'illusion, qu'on est comme un rayon qui a pris la distance de la source.
C'est ça.
Donc c'est pour ça, comme il me donne l'impression que j'ai pris la distance, donc le rayon, quand il sent qu'il a pris la distance, il se sent quelque chose, donc du coup, il se sent quelqu'un. Mais la réalité, c'est que nous ne sommes pas comme le rayon qui a pris la distance. En vérité, nous sommes exactement un rayon dans la source, parce qu'on est dans Dieu. Donc normalement, si on se rendait compte de ça, on devrait constamment être annulé, on ne devrait pas avoir d'existence. Donc qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il nous laisse dans la source, mais il nous donne l'illusion qu'on est loin de la source. Ça veut dire qu'il se cache.
Il nous embrouille.
Pas du tout, c'est très simple.
Mais alors finalement, on n'est qu'un source.
Pour reprendre l'exemple du néon, David, imagine-toi qu'il y a un rayon dans le néon. Il est dans le néon, donc à un moment, il doit être noir dans le néon.
Il croit qu'il est là.
D'accord? Mais on lui fait croire qu'il est là. Donc du coup, il est là-bas, il commence à faire le mal, il dit « Ouais, je suis là, je suis là. » Mais en vérité, il est encore dedans.
Donc on n'est qu'une illusion.
C'est encore pire que mettre.
Donc, ça, c'est quoi, c'est l'indépendance est une illusion.
C'est plus dur à comprendre, déjà.
Alors, où il est le libre-arbitre?
Ah non, le libre-arbitre, c'est que maintenant, dans la pseudo-indépendance que j'ai, c'est moi qui décide.
Non, mais attends, si tu dis l'indépendance est une illusion, où il est le libre-arbitre? Puisque le libre-arbitre, c'est justement de choisir à droite et à gauche.
Parce que concrètement, je me sens complètement indépendant, bien que c'est
que
faux.
Je me sente, que je me sente, c'est une chose.
Oui.
Mais on me dit, je t'ai créé avec le pouvoir de dire oui ou non.
Oui, non, ça veut dire...
Alors, mais... pourquoi on va, comment, là maintenant, on est au tribunal, tu me dis, tu avais le choix de dire oui, tu avais le choix de dire non, je te dis non, tu payes. Mais non. Je suis l'illusion, j'ai l'illusion de penser ce que
non,
tu
veux. Non. Encore une fois, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, pour me créer le libre arbitre, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache dans le sens que il ne me montre pas qu'en vérité je suis dans sa source. Il me fait croire que je suis un rayon qui a pris de la distance. Quand un rayon prend de la distance, dans ce cas-là, il se met à éclairer parce qu'il dit je suis quelqu'un. Parce que si tu montrais au rayon qu'il était dans sa source, le rayon cesse d'exister parce qu'il est battel, il annulait sa source.
Mais comme il est programmé pour aller à l'endroit où il doit aller, comment ça se fait, même si tu dis qu'il est, comme il voit pas l'origine?
Mais non, le problème c'est que en vérité, dans l'absolu, le rayon ne quitte jamais la source, parce qu'on peut pas quitter Dieu.
Oui, je comprends.
Donc en vérité, si on se rendait compte de ça, on cesserait d'exister, parce qu'on serait battel, on serait noir comme le rayon qui est dans le cœur.
C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne qu'on n'existe pas.
Chez Benita, il y a une arnaque.
Ah oui, ça marche.
Ça marche pas.
Non.
Alors regarde le rayon qui éclaire en bas.
Je repasse.
C'est ça, quoi.
Très simple.
Il n'existe pas.
Il a éteint la lumière, là. Il commence à comprendre quelque chose, mais là...
Les personnes n'arrivent pas à comprendre.
C'est normal qu'il n'existe pas.
Quoi ?
Il n'existe pas, alors.
Mais si, justement. On fait croire que
j'existe. Non.
Mais personne n'arrive à comprendre qu'on n'existe pas.
Ça veut dire, on me fait croire
qu'on soit détaché de lui.
Justement, il me donne l'impression que je suis indépendant et détaché, alors qu'en vérité, je ne le suis pas. Parce que s'il me montrait la vérité que je suis partie intégrante de lui, je serais annulé à lui et j'aurais aucun sentiment d'indépendance, donc je n'existerais plus. Je serais noir comme le rayon qui est dans le cœur.
Mais il veut malgré tout qu'on soit détaché de lui.
On ne peut pas être détaché de lui. Parce que si on dit qu'on est détaché de lui, ça veut dire qu'il n'est plus le même avant et après la création du monde. C'est quelque chose qui a changé.
Enfin, qu'on soit le rayon.
Ça c'est pas bon non plus.
C'est une illusion.
Parce que si vous dites comme ça, ça veut dire qu'avant il y avait que le soleil, maintenant il y a le soleil plus les rayons. Donc c'est pas donc il y a deux éléments.
Et pourquoi on a donné l'exemple du rayon alors?
Non, mais
donc c'est faux. En vérité,
pourquoi il nous tire l'exemple du rayon?
On est toujours resté comme un soleil avec des rayons. Seulement, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Les mêmes rayons qui étaient toujours présents à l'intérieur du soleil, à savoir nous, au lieu que de leur montrer la réalité qui sont que des rayons. Et qu'ils sont à l'intérieur, que là, automatiquement, ils cessent d'exister, parce qu'ils disent, je suis dans la source, donc je cesse d'exister. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Dans la source, il te montre pas que tu es dans la source. Donc, automatiquement, le rayon, il a une sorte d'indépendance dans la source.
C'est Matrix.
C'est vrai, mais il a voulu quand même que ce rayon
on est dans Matrix,
soit indépendant. Ah,
c'est la globule rouge ou la globule blanche, bleue.
Ouais, c'est dans le film, sans être dans le film.
Il a voulu que
les scénaristes, ils ont dû lire le Daniel, parce que
c'est un truc.
Le livre arbitre, c'est que moi, quand je prends ma décision, je suis pas au courant de ça.
Machine, mais tu penses que
non, je suis pas au courant que j'ai pas le choix de prendre cette décision.
Exactement.
Donc en réalité, je prends pas de décision.
Ça veut dire que moi, quand j'ai pris la décision, je l'ai fait avec mon indépendance. Bien que mon indépendance est en vérité une pseudo-indépendance. Hein? Moi, quand je l'ai fait, je l'ai fait avec ma réflexion.
Et si la ligne est déjà tracée, où est mon intervention?
Non, la ligne n'est pas déjà tracée. C'est pas dire comme ça.
Il te laisse croire que tu décides.
Il te laisse croire que tu décides, mais quand tu décides, c'est toi qui décides. C'est pour ça que t'es punissable.
Mais je peux pas décider. Impossible. Non,
je peux pas décider le résultat.
Je suis le rayon. Je suis le rayon.
Je suis pas jugé pour le résultat de ce que je vais faire. Je suis jugé pour la décision de prendre, que j'ai prise. Ce moment-là, j'ai décidé de faire ça.
Mais là.
Tu veux dire que si j'ai décidé.
Ça, c'est un autre débat. Excuse-moi, Michael. Si on en parle après, mais ça, c'est le libre arbitre, c'est une autre question. Là, ce que je vais vous montrer comme exemple, c'est expliquer comment on peut dire d'un côté que j'ai une sorte d'indépendance et d'un autre côté que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez le problème qu'on a? On a un vrai problème. C'est-à-dire, d'un côté, je dois comprendre que je suis dans Dieu. Donc, si je suis dans Dieu, je suis annulé. Et d'un autre côté, j'ai un sentiment d'indépendance. Or, pour avoir un sentiment d'indépendance, il faut avoir la distance. Or, personne ne peut être à distance de Dieu. Alors, c'est quoi la solution? C'est de rester à l'intérieur et qu'on me cache ma source de façon à ce que je crois que j'ai la distance, alors qu'en vérité, j'en ai pas.
Donc, c'est-à-dire que Dieu, il est battel?
Non, ça veut dire que Dieu, il ne donc montre pas est, qu'il, est, qu'il est ma source.
Quand on dit que tout est écrit, on n'a aucune responsabilité dans ce, qui, dans ce qu'on fait.
Quand on dit que
tout est écrit, donc tout ce qu'on on est inexistant est étant existant, donc on ne crée rien.
C'est la question de Michael. Non, non, pas du tout, bien sûr, je suis responsable. Parce que moi, quand je prends ma décision, je les prends avec ma tête, avec ma réflexion. C'est pas moi qui décide du résultat, mais c'est moi qui ai décidé de le faire. Donc c'est sur ça que je suis jugé, sur ma décision. Maintenant, le résultat, c'est Dieu qui décide le résultat. Est-ce que ça marche ou ça va marcher, c'est son problème. Mais j'avais une décision, une situation dans laquelle j'étais pseudo-indépendant, et c'est moi qui ai décidé.
C'est la prise de décision.
Je suis jugé sur la prise de décision. Bon. J'espère que je vous ai pas trop largué. Alors, ça va, David?
Très bien.
Ah, David, je sens qu'elle a... Pff, tu es dedans, voilà.
Non, pas du tout, je voulais fumer une cigarette. Dans ah. Décompressé.
Il va manger la cigarette.
Servez-le.
David, une petite vodka pour la route.
Non, parce que, Rabotaille, c'est important de comprendre ça. Parce que, si vous voulez une vraie simra dans la vie, il faut passer par ça. Si on passe pas par cette réflexion que tout vient de Dieu et que tout est Dieu, qu'en vérité même moi je suis Dieu et tout ce qui m'arrive c'est Dieu.
On peut penser que tout est de Dieu et penser qu'on existe aussi en même temps.
Non, parce qu'en vérité, parce que si tu penses que tu existes, exister, ça veut dire que tu t'es extrait de Dieu. Ça veut dire que tu es indépendant.
Pas, ça veut dire que tout ce que je fais, c'est pas moi
j'ai
qui
compris,
le fais.
J'ai compris. Tu comprends mon problème.
Oui, non, mais moi,
dans ce cas-là, dans ce cas-là,
je ne sais pas ce que je fais. C'est pas moi qui le fais.
Veu echad ve'encheni. Adon olam asher malah beterem kol yitzurnivra. Qu'est-ce qu'on dit? On dit comme ça. Et tu as aussi ça dans le Yigdal. On dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est le même. Veu haya veu ove. Il est le même avant la création du monde,
oui, mais...
pendant la création du monde, après la création du monde. Or, il n'est pas le même, parce qu'avant la création du monde, il n'y avait pas Marcel Boisise. Maintenant, il y a un grand Marcel Boisise.
Ouais, t'en sais rien, parce que, qu'est-ce que t'en sais?
Je te touche, tu es là.
Non, mais peut-être que j'existe aussi à la création. Hein? Mon âme, elle était déjà. Non, mais mon âme, elle était déjà.
Tu n'étais pas l'avant qui t'a créé. Alors, comment c'est possible? Alors, c'est quoi la réponse, Marcel?
Vas-y.
La réponse, c'est qu'en vérité, écoute. Marcel Boisise, il a toujours existé.
Ah bah tu vois, il vient de le dire.
Avant que Dieu ait créé le monde, Marcel Boisise, il a toujours existé.
Il n'était pas dévoilé.
Seulement voilà. Avant, hein, c'était un rayon dans le, c'est un rayon dans le cœur du soleil. Et donc, du coup, il n'est pas l'existant puisqu'il est un rayon dans le cœur du soleil. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a dit, je ne vais pas montrer au rayon qu'il y a un soleil. Comme ça, il va se dévoiler dans moi. Et de ça, on a fait à Marcel Boisise.
D'accord.
En vérité, Marcel Boisise, il a toujours existé.
Voilà. Donc, c'est bien ce que je te dis. Donc, ce qu'on fait.
Il est pas né. Il est pas né, ça fait quelques années. Il est pas né, ça fait quelques décennies. Marcel Boisise, il est né, il est éternel.
Il a 5000 ans.
Il a toujours existé. Non, il a toujours existé.
5000 ans.
Donc, pourquoi on a donné l'exemple du rayon du soleil qui est clair?
Parce que l'exemple du rayon du soleil, c'est un exemple dans lequel on voit clairement cette idée. Que. Pour prendre de l'indépendance, faut prendre la distance. Tant que quand tu es à la source de quelque chose, tu peux avoir une indépendance. Comme un maître avec un élève. À quel moment l'élève peut prendre une indépendance? C'est quand il prend la distance de l'élève.
Quand il révise à la maison.
C'est quand l'élève va quitter le cours, il va rentrer chez lui à la maison. Là, il va avoir son indépendance. Mais quand il est dans le cours, quand il est dans le texte, il peut pas avoir une indépendance. Parce qu'il est à la source.
Donc on nous explique qu'on n'a pas d'indépendance.
On t'explique que pour prendre l'indépendance, il faut prendre la distance. Or, personne ne peut prendre la distance de Dieu. Donc la seule façon, c'est quoi? C'est que Dieu, il te cache que tu es dans la source.
Il te fait croire que tu es dans une...
Le but de tout ça, David, c'est pas de te compliquer la vie.
Non, non,
c'est de t'expliquer...
Continue à faire des pizzas.
D'accord. Voilà. Continue à faire des pizzas qui ont toujours existé. Ça marche, j'ai fait les créations du monde. Tu vois, demain, tu vas avoir une pizza. Tu vois cette pizza?
Elle n'existe pas.
Elle n'existe pas. Et en vérité, elle existe depuis la création, avant la création du monde.
Mais c'est 10 balles quand même.
Et c'est même... Alors moi, je lui dis, tu vois les 10 balles?
10 balles pour un truc qui n'existe pas.
Tu vois les 10 balles? En vérité, tu ne les vois pas dans ta caisse. Mais ils ont toujours existé dans ta caisse.
Demain je vais aller voir la banque, vous voyez l'argent que je vous dois, elle a toujours existé, rien que vous la voyez pas.
Vous voyez les 10 balles dans ta poche, demain on en a bien.
Hein, les quoi?
Voilà. Ça c'est pour expliquer à Botaille, pour expliquer cette notion, comment d'un côté on peut être Bethel dans un Kadosh Baruch Hu, et d'un autre côté on peut avoir une existence. D'accord? La vérité, c'est que là, on a touché, comme on dit en hébreu, avec on a juste piqué avec un peu la fourchette, hein. Juste un petit résumé. Chapitre 20 et 21 du Tania. et de 12 chapitres de Shaharut Vemuna. 12 chapitres sur ça. C'est-à-dire que ça demande des mois de réflexion. Ce que je vous dis là, la Yeshiva, on a passé des mois et des mois dessus. C'est pas stam comme ça. Mais je vous donne juste une petite idée. C'est ce que je vous explique aujourd'hui. C'est pas comme ça. On peut pas comprendre d'un coup. Il faut passer plusieurs fois pour comprendre ça. Mais un petit peu, pour comprendre un petit peu ce qu'on a expliqué, je vais vous faire un petit résumé. D'expliquer comment, d'un côté, je viens d'Akadosh Baruch Hu, d'un autre côté, j'ai mon existence, mon indépendance. Comment j'ai mon indépendance? Parce que Dieu, il cache la source. Dès qu'il cache la source, là que c'est là que j'ai mon sentiment d'indépendance. Bon. Maintenant, ce qu'on va expliquer, Bezrat Hashem, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ce qu'on va expliquer, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va expliquer que c'est seulement quand on comprend ça qu'on peut avoir une vraie simcha. Maintenant, il va expliquer quelque chose de très important. Il va dire que ça, il y a amik basé arbé. Il faudra s'approfondir beaucoup dans ça. Alors, c'est pas ça, comme ça, je dis, bon, j'ai trouvé la formule pour la joie. Hop, vas-y, pique-moi, c'est bon, je suis joyeux. Non, c'est pas ça. Ça, c'est un travail d'une vie entière. Et il faut beaucoup, 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 beaucoup s'approfondir pour comprendre que tout vient d'un Kadosh Baruch Hu. Et là, c'est le chidouche du cours d'aujourd'hui. C'est que on va aller au-delà de la Emouna. Il y a la Emouna et il y a la Mahashava. Bon, la Emouna, ça dit tout vient de Dieu. D'accord, c'est facile, ça. Ça, c'est de série, ça. Ça, bon, je sais que tu viens d'un Kadosh Baruch Hu. Ça, je l'ai. Et effectivement, par rapport à ça, je suis Bessimcha parce que je sais que Dieu sait ce qu'il fait. Mais là, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est pas seulement savoir et croire que tout vient de Dieu. C'est penser et comprendre qu'en vérité, tout vient de Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est très compliqué. Parce que c'est facile à le dire, mais concrètement, mettre ça dans la pratique, dans la vie de tous les jours, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Mais en Hachem, on prend notre temps, on va développer ça longuement. On continuera ça.
On peut faire un raccourci en disant d'où on vient et où on va, c'est pareil.
Non, c'est plus que ça. Excuse-moi, Marcel, c'est plus que ça.
Non, mais...
Pourquoi c'est plus que ça? Parce que, encore une fois, si tu dis d'où on vient et où on va, ça veut dire que j'ai une existence indépendante à part Dieu.
Non, parce qu'on on existe à part... Par Dieu, on existe par
Est-ce
Dieu.
Que Marcel Boisy, alors j'ai une question à te poser. Est-ce que Marcel Boisy existait il y a 5777 ans?
Il m'a dit oui tout à l'heure.
Alors dans ce cas-là, pourquoi tu n'étais pas là? Pourquoi tu n'étais pas là dans ce cas-là?
Bah, j'étais peut-être pas ici, mais j'étais peut-être ailleurs.
Ah ben non.
On ne sait pas.
Non, non, moi je t'ai dit que tu n'étais pas là. Tu n'étais pas créé. Mais d'un autre côté, tu étais déjà là. Comment c'est possible si tu n'étais pas créé?
Mon Neshama est créé, elle existait.
Non?
Non.
Pas du tout. Ta Neshama non plus n'était pas créée. Voilà. Mais si ta Neshama elle vient après, comme Dieu au-delà du temps, ça veut dire qu'en vérité ta Neshama était déjà là. Mais si elle était déjà là, pourquoi elle n'était pas là?
Oui, mais ça c'est une question, il n'y a pas de réponse.
Si, il y a une réponse. Il y a une réponse. C'est que comme tu étais dans la source, donc dans la source, il n'y a pas d'existence. C'est noir. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu avant de te faire descendre en bas? Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il te cache la source. Et là tu dis, ah, j'ai clair.
C'est comme un peu l'ADN.
Ah oui, mais la fille, allez, hop.
Non. Il te cache la source. Mendy, c'est un peu comme l'ADN qu'on a en nous, non?
Donc on était dans la source, on est toujours dans la source, mais là de manière.
Dans un microscopique endroit de nous, il y a tout nous.
Oui.
Tout comme.
Oui, c'est un peu ça, oui. Tout est là, oui. Exactement, c'est un peu ça. C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça. On peut donner plusieurs exemples sur ça. Le Rav Stenzel, c'est aussi un exemple, si mes souvenirs sont bons, un exemple d'une centrale électrique. Il dit, quand tu prends par exemple un courant de 5 volts, qui est un courant qui est très très faible, hein, tu peux toucher, il ne va rien se passer. Prends ce courant, est-ce que ce courant existait dans la centrale dans laquelle tu as plusieurs
mégawatts?
Bien sûr qu'il est là-bas, parce qu'il vient de là-bas. Mais pourtant, tu prends cette énergie, tu la mets là-bas, elle est annulée. Pourtant, elle vient de là-bas. Comment c'est possible? Seulement là-bas, comme elle a sa source, alors il ne peut pas s'exprimer. Le 5 volts ne peut pas s'exprimer. Ce n'est pas possible, il n'y a rien, il ne peut pas s'exprimer. Mais quand tu prends de la distance, et qu'ici, il n'y a pas de centrale électrique, et que j'ai besoin d'un 5 volts ou d'un 5 watts, d'accord? Là, il a son importance. C'est-à-dire que l'importance va démarrer dès qu'il y a de la distance. Vous pouvez donner plein d'exemples sur ça dans la vie. Que l'importance commence quand on est à la distance, et quand on n'est pas à la source. Donc nous, on est à la source, mais Dieu nous cache le fait qu'on est à la source. Voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui. Réfléchissez bien à ça. Pas trop. D'accord? Enfin, si, beaucoup.
Un petit peu,
un petit peu quand même. On va continuer la semaine prochaine. La semaine prochaine sera plus technique, Bezrat Hashem. On va rentrer pour expliquer comment on peut avoir une vraie simcha.
En
parlant de tout ça.
Oui, bien sûr.
Je suis pas là.
Un béni peut vraiment avoir.
Je ne veux pas.
Je veux dire vraiment ça tout le temps.
Allez, je t'ai rien donné.
Non,
je t'ai
rien donné. C'est
une réflexion. Tout est possible.
Razak.
Voilà.